Bienvenue à tous, voici l'accent des autres avec les médias francophones publics, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF pour un aperçu de l'actualité francophone de la semaine. Avec d'abord et toujours les effets de l'épidémie de Covid-19 dans bien des domaines, dont la gestion des autres maladies. En France par exemple, l'épidémie de Covid-19 est en train de reléguer au second plan les autres priorités médicales, Éric Delvaux.
Oui, c'est le cas de la campagne de prévention des cancers du sein, la traditionnelle opération Octobre Rose, qui tente malgré tout de se faire entendre. Dans un instant, le reportage dans le nord de la France.
Cette fois, ça y est, la Belgique a un nouveau gouvernement fédéral et aussi un nouveau Premier ministre, Jacques Remers.
Oui, il aura fallu 16 mois de négociations pour conclure un accord de gouvernement entre quatre familles politiques, une nouvelle équipe emmenée par un libéral. Le nouveau Premier ministre s'appelle Alexander De Croo.
Au Canada, la mort d'une femme autochtone dans un hôpital a semé l'émoi cette semaine, Benoît Audet.
Oui, elle a filmé ses derniers moments à l'aide de son téléphone portable et ce qu'on peut voir et entendre est troublant.
Dans l'actualité aussi, cette semaine, le procès d'un activiste congolais à Paris qui a tenté de s'emparer d'un objet d'art africain au musée du Quai Branly à Mélitué.
Oui, une action coup de poing en juin dernier, un coup d'éclat qui a été filmé et mis en ligne pour dénoncer le pillage de l'Afrique pendant la colonisation.
En Suisse, Pierre Anchoffa, l'armée pourra se doter d'un nouvel avion de combat, mais la décision du peuple s'est jouée d'un cheveu.
8000 petites voix d'écart, de quoi provoquer l'introspection des militaires. Ils s'interrogent sur les moyens de renforcer l'adhésion populaire à la notion de défense.
Plusieurs villes de France sont en sursis sanitaire. Les cas de contamination au Covid-19 y ont fortement augmenté. C'est notamment le cas de Paris et de sa proche banlieue où plusieurs seuils d'alerte ont été franchis, ce qui veut dire que de nouvelles restrictions pourront être annoncées dès lundi. Même chose à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne. Et pendant cette crise du Covid, beaucoup de patients renoncent au dépistage des autres maladies, le cancer du sein par exemple. En France, l'examen est proposé tous les 2 ans aux femmes de plus de 50 ans. Il faut y aller, c'est capital, dit cette année l'association qui organise la prévention en ce mois d'octobre. C'est la traditionnelle opération Octobre Rose. Reportage dans le nord de la France, au centre d'imagerie médicale à Amiens, signé François Sauvestre.
Ne bougez pas du tout.
L'épidémie n'aura pas fait reculer Marie-Claire qui s'est donc présentée masquée à sa mammographie. À 68 ans, ce dépistage, elle le fait tous les 2 ans.
Autant prendre soin de soi. Hein, et puis de prendre ça à temps.
Et il n'y a aucune excuse à ne pas se faire contrôler.
On n'est pas bien mise, on a un pincement à la poitrine, mais on ne peut pas dire que ça fasse mal. Non, c'est pas douloureux du tout. Et ça permet d'être tranquille dans sa tête.
Mais avec l'épidémie de Covid-19, le nombre de dépistages a déjà baissé cette année de 22% dans la Somme, constate la secrétaire médicale Gersande Boquet.
Il faut souvent que le centre régional de coordination du dépistage les relance parfois, qu'elles reçoivent 2 lettres de rappel avant qu'elles nous appellent pour les rendez-vous. Ça représente le cancer le plus mortel chez la femme et il ne faut surtout pas se négliger, surtout en ce moment.
Et il n'y a rien à craindre, assure Céline Leclerc. La manipulatrice radio arbore un masque rose et désinfecte le matériel entre chaque patiente.
C'est pas pire que d'aller faire ses courses au supermarché. Sur les clichés de mammographie, on peut détecter des petites anomalies que vous ne ressentez pas. Donc, dès que c'est dépisté au plus proche du point de départ, on peut être soigné beaucoup plus rapidement.
Dans 9 cas sur 10, un dépistage précoce permet de guérir d'un cancer du sein.
En Belgique aussi, ce problème de dépistage se pose, Jacques Remers.
En Belgique, le cancer du sein touche en effet 1 femme sur 9, mais ici aussi de nombreux rendez-vous chez l'oncologue ont été annulés pendant le confinement. D'après la Fondation contre le cancer, il y a eu pendant ce confinement 44% de diagnostics en moins par rapport à l'an dernier, tout cancer confondu. Et pour le cancer du sein, c'est encore pire, plus de 50% de dépistage en moins.
La Belgique qui vient de vivre une semaine politique intense, les Belges l'ont attendu pendant 6 mois depuis les dernières élections. Un nouveau gouvernement de plein exercice a enfin été constitué cette semaine, Jacques.
L'accord final a été conclu mercredi et jeudi le 1er octobre. Le nouveau Premier ministre a lu la déclaration de son gouvernement devant l'ensemble des députés réunis pour la circonstance dans le Parlement européen. Pourquoi ? Parce que l'hémicycle habituel de la Chambre des représentants était trop petit pour respecter la distanciation sociale. Mais pour illustrer en musique cet accord de gouvernement, ce n'est pas l'hymne européen, l'ode à la joie, qui convient le mieux, mais cet extrait du compositeur italien Vivaldi. Vous aurez peut-être reconnu l'automne, l'une de ces quatre saisons, quatre comme les quatre familles politiques qui composent ce nouveau gouvernement. La coalition Vivaldi, comme on l'appelle, rassemble en effet des socialistes, des libéraux, des écologistes et des chrétiens démocrates. Un gouvernement dans lequel les Flamands sont minoritaires et qui, pour la première fois, compte autant de femmes que d'hommes.
Côté programme, ce nouveau gouvernement aura pour tâche de relancer l'économie compte tenu de la pandémie de Covid-19.
Et d'ailleurs, il est prévu d'octroyer un gros bol d'air financier aux soins de santé, à ce personnel qui se trouve en première ligne. Mais le gouvernement, nouvellement constitué, a de nombreux autres projets en rayon, notamment une pension minimale à 1500 euros, la sortie du nucléaire en 2025, de l'argent pour la justice et aussi pour engager des policiers. Enfin, l'accord entr'ouvre la porte à une nouvelle réforme de l'État belgique, car la fragmentation de la représentation politique, le clivage entre le nord flamand à droite et le sud francophone à gauche rendent de plus en plus complexe la formation d'un gouvernement, une Belgique qui paraît désormais presque ingouvernable.
Au Canada, le sort réservé aux Autochtones est encore au centre de l'actualité. Et cette fois, c'est une femme de 37 ans, mère de 7 enfants, qui est à l'origine d'une nouvelle vague d'indignation. Benoît Audet, d'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé.
Oui, la femme en question, Joyce Echaquan, originaire de la communauté de Manouane, était hospitalisée dans la ville de Joliette, plus au sud, pour des difficultés respiratoires. Dans la vidéo qu'elle a enregistrée avec son téléphone portable juste avant sa mort, elle dit qu'elle a été surmédicamentée. Et ce qui est troublant, c'est que pendant l'enregistrement, on entend des employés de l'hôpital lui lancer des injures et tenir des propos dégradants à son endroit.
Et cette affaire a soulevé de nombreuses réactions au Québec, mais aussi au Canada.
Oui, tout d'abord, deux employés ont été congédiés. L'enquête se poursuit. Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que le traitement que Joyce Echaquan avait subi était inacceptable. À Ottawa aussi, la classe politique a fait part de son indignation.
Et cette affaire met aussi en lumière le traitement qui est trop souvent réservé aux Autochtones dans le système de santé au Canada.
Oui, souvent ils doivent sortir de leur communauté pour avoir accès à des soins. Beaucoup d'Autochtones ont dit avoir été victimes de racisme carrément lorsqu'ils se présentent à l'hôpital. Je vous invite à écouter le témoignage de Carl David Ottawa, un résident de la communauté de Manouane.
Je fais plus confiance au système, même au ministère des Affaires indiennes. Si je devais mourir... J'aimerais mourir ici au lieu d'aller me faire critiquer à Joliette. Je préférerais bien mieux mourir ici dans la dignité avec ma famille.
Donc, c'est tout un lien de confiance qui est à rebâtir entre les Autochtones et le système de santé.
Cette semaine également, un procès devenu tribune dans le débat sur la restitution des œuvres d'art au continent africain, Amélie Tulé.
Oui, le procès de Emery Mwazulu Diabanza, militant congolais natif de Kinshasa et âgé de 42 ans. Il a fait parler de lui ces derniers mois en s'emparant d'objets d'art dans des musées européens, des objets venus du continent africain qu'il dit vouloir ramener à la maison. Ainsi, en juin, il a tenté de s'emparer d'un poteau funéraire tchadien au musée parisien du Quai Branly. Un coup d'éclat filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.
Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée du Quai Branly. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Je ramène en Afrique tout ce qui a été volé.
Mercredi, il était jugé à Paris avec quatre autres militants. Des amendes ont été requises. Le jugement sera rendu mi-octobre. La France, on le rappelle, s'est engagée à rendre une petite trentaine d'objets au Bénin. Pour Marie-Cécile Zinsou, qui travaille sur ces questions de restitution, les actions menées par Emery Mwazulu Diabanza illustrent une réalité, l'impatience d'une partie de la jeunesse africaine.
Ce n'est pas nos pères et nos grands-pères qui se battent pour ces sujets. C'est vraiment nos enfants qui vont se battre pour ces sujets. Il va y avoir toutes sortes d'actions. Et il va falloir à un moment que la France accepte d'ouvrir le débat sur cette période de l'histoire. On ne peut pas continuer d'avoir un regard postcolonial sur l'Afrique. C'est complètement déplacé, ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment en jeu dans ce procès, je pense.
La France compte environ 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne, la moitié acquise avant 1960 et les indépendances.
Et en Suisse, Pierre Anchoffa, la question de la restitution des œuvres africaines fait aussi régulièrement débat.
Oui, car si notre pays n'a pas de passé colonial, eh bien nos musées possèdent aussi de l'art africain, des œuvres souvent achetées de bonne foi, mais qui peuvent résulter à l'origine de pillages militaires. C'est pourquoi un parlementaire socialiste a demandé il y a bientôt 2 ans que la Suisse recherche activement ces biens culturels potentiellement spoliés. Une manière aussi de faire reconnaître le rôle de la Suisse dans le projet colonial européen. Eh bien, le Parlement doit encore se prononcer à ce sujet.
La Suisse, où les citoyens ont confirmé dimanche dernier leur attachement aux relations bilatérales avec l'Union européenne, ils ont clairement rejeté l'initiative de la droite souverainiste qui voulait abolir la libre circulation des personnes. Mais Pierre-Anne, la surprise de ces votations, c'est le très long suspense qui a entouré l'acquisition d'un nouvel avion de combat.
C'est vrai, si le peuple a finalement dit oui, c'est un tout petit oui à 50,1%, 8600 voix d'écart sur près de 3 millions de votants, et ce alors que les sondages laissaient présager une approbation bien plus confortable. Cela faisait longtemps que les Suisses n'avaient pas vécu un tel suspense lors du dépouillement commune après commune. On passait du oui au non, puis enfin au oui. La chef du département de la Défense et les militaires ont vraiment senti de très très près le vent du boulet.
Et comment réagissent les militaires à ce signal ?
Eh bien oui, c'était presque un coup de semonce, vous avez raison Marie-Laure. Ils s'interrogent sur leur capacité à convaincre la population du sens même de l'armée. Pour le brigadier Denis Froidevaux, ancien président de la Société Suisse des Officiers, il faudra faire de sérieux efforts pour mieux expliquer la menace potentielle.
Maintenant, il faut vraiment faire un travail de fond sur la persuasion et la sensibilité aux risques. J'ai entendu pendant la campagne beaucoup parler de risques cyber, de risques qui sont plus du tout en lien avec des menaces conventionnelles. Aujourd'hui, c'est vrai, mais encore une fois, une politique de sécurité, elle apporte des réponses pour 20 à 30 ans avec des décisions qui se prennent aujourd'hui. Et c'est se livrer à un exercice extrêmement difficile que de prendre des décisions aujourd'hui qui portent leurs fruits sur le moyen terme.
D'autant plus difficile que le peuple en Suisse peut souvent trancher en dernier ressort. Mais pour cette fois, l'armée peut aller de l'avant sur le choix de l'avion. Ce très petit oui reste un oui. Et lorsque la décision du gouvernement tombera entre les offres américaines et les offres européennes, eh bien, il n'y aura plus de possibilité de référendum pour contester le choix.
Merci Pierre-Anne, merci à tous. C'était l'actualité de cette semaine, vue par les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, la RTBF et France Inter. Excellente fin de semaine à vous. L'Accent des Autres revient la semaine prochaine avec Olivier Nederland.
L'Accent des Autres avec les médias francophones publics.